Je voudrais qu'on lise, pour commencer, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur haute montagne, à l'écart eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les trois remplis de peur. Une huée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Et aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts, ils obéirent à cet ordre. On reprend au verset 14. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un leur répondit « Maître, j'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents. Puis il devient tout raide. » « J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et leur dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père, « depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sérénité à l'esprit mauvais. « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « il est mort ». Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison, ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent alors « pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ? » Jésus leur répondit, « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Jésus va s'entourer de 3 disciples afin de leur faire vivre une expérience, je dirais, hors norme, une expérience extraordinaire. Ils vont découvrir par cette expérience la gloire de Dieu. Voir Jésus dans toute sa splendeur. Évidemment, comme nous l'est précisé dans le texte, l'aspect de Jésus changea. Il y avait tant de pureté et tant de gloire en cet instant. Voir la gloire de Dieu comme personne ne l'a vue, mis à part peut-être quelques hommes particuliers, privilégiés, comme Abraham, Moïse, Élie, vraiment un club très restreint. Nous avons aussi l'apôtre Paul qui a vécu des moments glorieux, l'apôtre Jean aussi quand il a eu la révélation de l'Apocalypse. Mais enfin, c'était réservé à quelques personnes seulement. Vous allez dire pourquoi ces 3 disciples-là? On peut donner plusieurs explications, peut-être parce que l'apôtre Pierre allait devenir un des pionniers de l'évangélisation quand Jésus est remonté au ciel au jour de la Pentecôte. Peut-être aussi parce que Jean allait recevoir cette révélation qui est l'Apocalypse. Et peut-être Jacques parce que c'est lui qui a été le premier des martyrs dans les chrétiens. Ça, l'explication vaut ce qu'elle vaut. Voilà, c'est ce que j'en ai retiré. Mais peut-être vous allez me donner une autre explication, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces trois hommes ont vécu avec Jésus une expérience extraordinaire. Et Jésus, en descendant de la montagne, leur interdit d'en parler pour le moment. Il fallait que tout soit accompli. Sa mort à la croix, sa résurrection, son ascension, avant de dévoiler ce moment glorieux, il voulait leur montrer quelque part sa gloire future, même si en ce moment-là, il ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'il venait de vivre. Mais quel moment glorieux ils ont partagé avec Jésus. Et ce qu'ils ont vécu est un moment inoubliable pour ces trois disciples. Et Pierre a été marqué personnellement par ce moment qu'il a vécu, ce moment glorieux. Et Pierre le racontera dans son deuxième épître, au chapitre 1er, les versets 16 à 18. Il nous dit, en effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. Lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Il l'affirme. Car Dieu, le Père, lui a donné honneur et gloire. Lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils, bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue, nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui, Pierre a été marqué par cette expérience glorieuse qu'il a vécue avec Jésus, en voyant Élie, Moïse, en voyant la gloire de Dieu. Jamais il ne pourra oublier ce moment glorieux. L'on ne veut pas et on ne peut pas quitter des moments aussi intenses dans sa vie, dans la vie chrétienne. Tout qui a vécu des moments intenses peut en témoigner. Moi-même, j'ai vécu des moments bénis, des moments glorieux. Je n'ai pas été sur la montagne avec Jésus, rassurez-vous. Mais on a vécu certains moments, des moments bénis. Des moments où on sentait vraiment la présence de Dieu. Ce n'était pas de la comédie, on sentait vraiment que Dieu était présent. Et je peux dire que je ne désirais pas que ça s'arrête. Bien sûr, ce n'est pas comparable à ce qu'ils ont vécu, mais la présence de Dieu était tellement palpable qu'on avait envie de continuer. Et je crois que je ne suis sûrement pas le seul ici qui a vécu de bons moments. Et en préparant cette méditation, je me souviens d'avoir prêché sur ce texte il y a environ 45 ans. J'étais jeune et beau. J'en suis resté un jour. Mais ça m'a marqué parce que nous avions organisé un camp de jeunes, avec l'église où nous étions à ce moment-là. Et c'était à Poleur. Il y a un camping à Poleur. C'était le début du camping, donc on a pu y dresser des tentes. Voilà, hein. Et on a fait le camping sous tente et on a passé des moments super en tant que dans ce camp de jeunes. On s'est bien amusé, il y avait une bonne ambiance, une bonne nourriture, ce qui n'est pas négligeable. Des bonnes réunions, du beau temps, ce qui est rare en Belgique. Et nous avons vraiment passé un moment formidable entre jeunes il y a quelques années. Et il nous fallait quitter cet endroit béni, parce qu'on avait passé vraiment des bons moments. Il fallait quitter cet endroit pour aller travailler, pour ceux qui travaillaient. D'autres étaient encore aux études, il fallait retourner à l'école. Hein, on s'est dit, ah, si ces moments formidables que nous avons vécus pouvait durer toujours. Mais non. Non. La vie doit reprendre son cours. La vie doit reprendre son cours avec son lot de soucis, avec son lot de difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie, avec toutes les obligations que nous devons avoir, toutes les frustrations peut-être. Et on doit vivre avec cela. Et Pierre, quelque part, ne voulait pas retrouver le train-train de la vie. Je le comprends. vivre un moment aussi glorieux, on n'a pas envie. C'était trop bon d'être là-haut. Il était quelque part dans un état second. Et il avait même l'intention d'y loger. Seigneur, allez, j'ai des tentes, on va dresser 3 tentes et on va rester ici pour toujours. Non. Malheureusement pour eux, il fallait redescendre. Il fallait redescendre et retrouver les réalités du temps présent. Et c'est vrai que quand on a vécu des moments bénis, dans des réunions, ou tout seul à la maison, dans la présence du Seigneur, on voudrait que ça dure. On voudrait que ça dure et que ça ne finisse pas. Être dans la présence de Dieu, c'est si bon. Et il y a des chrétiens qui voudraient vivre dans un endroit loin du monde et des soucis et vivre là et ne plus rien voir de ce monde. Certains s'isolent, et je ne critique pas, certains vivent dans des monastères reclus, entre eux, loin peut-être de réalité du monde. Je ne pense pas que, sans aucune critique, je ne pense pas que c'est vraiment la volonté de Dieu pour ses enfants. Il veut que ses enfants puissent affronter les difficultés de la vie, du monde, comme Jésus lui-même les a affrontées. Jésus ne s'est pas isolé dans un monastère, dans un temple fermé. Non, il a partagé sa vie avec les êtres humains. Nous ne pouvons pas vivre loin des réalités de notre temps, frères et sœurs. Dieu nous a destinés à nous mêler au monde, à vivre parmi le monde, sans copier le monde, évidemment, à montrer notre différence, ne pas vivre à la façon du monde, mais vivre comme Dieu veut que nous vivions, parmi le monde. Et oui, nous voilà dans la vallée maintenant avec Jésus et ses disciples. Comme je dis, on ne peut pas toujours être sur la montagne. Vous connaissez ce chant ? Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, oui. Mais on ne peut pas toujours être là. La plupart du temps, frères et sœurs, on n'est pas sur la montagne, on est dans la vallée. Et qui est parfois aussi la vallée des larmes. On n'a pas toujours envie d'être dans cette vallée. Mais nous devons la traverser. Nous l'avons chantée. Hein ? Et justement, là, dans cette vallée, il y a des problèmes qui attendent Jésus. Jésus et ses disciples ont vécu de moments glorieux, et Bardi Bardar se lombardait, comme disait quelqu'un, et nous sommes dans la vallée avec des problèmes, des difficultés. Et nous-mêmes, nous aurons affronté des problèmes, des difficultés dans notre vie spirituelle, surtout après avoir vécu des moments exaltants, des moments bénis dans la présence du Seigneur. Car, frères et sœurs, voyez-vous, ces moments particuliers avec Dieu servent à fortifier notre foi. C'est pour ça que ces moments bénis, peut-être rares ou glorieux, arrivent. C'est pour que nous soyons formés, façonnés, travaillés par Dieu, remplis de son esprit. Dieu a un but précis pour cela. Et comme je le dis souvent, non pas pour amuser la galerie, Dieu permet ces moments-là, mais pour fortifier notre foi. C'est cela, le but de Dieu quand il veut nous prendre à part sur la montagne pendant quelques moments. C'est pour nous parler, pour nous visiter, pour nous instruire, pour nous diriger dans une autre voie. Et Jésus est confronté à un problème délicat, difficile, un problème que n'ont pas pu résoudre ses disciples. Un homme se présente, il a un fils malade, gravement malade. Cet enfant est agité, il convulse, il peut tomber dans le feu, dans l'eau, il est poussé à se tuer. Il y a une emprise sur lui, et le père de cet enfant est désespéré, effondré devant la maladie incurable de son fils. Il a tout essayé pour pouvoir guérir cet enfant. C'est pour ça qu'il s'est présenté avec cet enfant devant ses disciples, pour que ces hommes puissent faire quelque chose. Jésus étant absent, on a pris les collègues et on a essayé de trouver une solution pour cet enfant. Malheureusement, les disciples n'ont rien pu faire pour cet enfant. ce qui provoquera la colère de Jésus quand il entend ces choses. Car si nous retournons quelques chapitres en arrière dans l'évangile de Marc, nous voyons ces disciples, ces mêmes disciples, qui ont été envoyés par Jésus pour évangéliser. Et Jésus leur a doté d'un pouvoir sur les mauvais esprits. Jésus les a dotés d'un pouvoir afin qu'ils puissent guérir des malades, que des miracles s'opèrent par les mains de ses disciples. Et Jésus ne retire pas les dons, Dieu ne retire pas les dons qu'il nous accorde. C'est nous qui ne les développons plus. Mais Dieu ne retire pas les cadeaux qu'il nous fait. Et maintenant, ils sont complètement démunis face à ce problème. Pourquoi ont-ils perdu cette puissance? La réponse à la fin de la méditation. Qu'en est-il après le moment glorieux que Jésus a vécu avec ses disciples? Maintenant, il est temps d'agir, frères et sœurs. Comme je le disais, les moments de grâce et de communion intense avec Dieu servent à agir pour nous dans les moments difficiles. Et Jésus interroge le père de l'enfant, il lui explique la situation dramatique que la famille est en train de vivre. Le père de l'enfant désire que Jésus fasse un miracle. Mais il y a un bémol dans la démarche de cet homme. Cet homme dira, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Et Jésus de reprendre cet homme, si tu peux, mais pourquoi viens-tu près de moi, si je ne suis pas capable? Et Jésus de lui dire, tout est possible à celui qui croit. C'est une parole pour nous aussi ce matin. Et je voudrais que, par cette histoire, ce passage que nous venons de lire, nous puissions tirer des leçons pour notre vie spirituelle, pour nous tous. Comme je disais, Dieu permet des moments glorieux en sa présence afin de nous faire découvrir sa gloire, nous fortifier dans la foi, parce que nous en avons besoin, reconnaissons-le. Notre foi n'est pas toujours forte. Il veut nous armer. Parce que Dieu nous a donné des armes, mais les armes spirituelles, nous les laissons peut-être de côté. Et nous partons sans notre armure, sans nos armes, quand nous sommes face à des problèmes. Et Dieu veut nous armer pour ces combats que nous devons pratiquer quand nous sommes dans la vallée, parce que nous ne pouvons pas toujours être sur la montagne. Quant à l'attitude du père de l'enfant, c'est l'attitude de tout homme ou de tout chrétien qui s'approche de Dieu pour obtenir une réponse à une prière, pour obtenir une grâce. On désire s'approcher de Dieu, de Jésus, obtenir une grâce, mais bien souvent le doute nous envahit, comme ce père. Quand nous nous approchons de Jésus, nous ne sommes pas toujours certains de ce que nous demandons ou que Dieu va-t-il vraiment répondre? Si tu peux, c'est un peu ça, ne te le disons pas comme ça. Mais notre attitude dit, si tu peux. Nous sommes pris par le doute, parce que peut-être ce que nous demandons est peut-être trop grand. Nous prions avec un léger doute, ou parfois même avec un doute certain. Serais-je exaucé à ma prière? Ce cas est-il trop compliqué pour Dieu? Et nous avons malheureusement beaucoup de prières qui restent là, qui n'ont jamais été exaucées. Comme j'ai toujours dit, il y a le temps de Dieu. Mais il y a aussi des prières qui ne sont pas exaucées parce que c'est notre manque de foi qui bloque l'action de Dieu. Nous pouvons bloquer l'action de Dieu par notre manque de foi. Seigneur, si tu peux. Nous prononçons les mêmes paroles que ce Père. Le doute s'empare de nous et affaiblit notre foi, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus le reprend en appuyant sur le « si tu peux ». Entendons-nous la voix de Dieu ce matin nous reprendre et nous dire « si tu peux ». Quelles sont les prières que nous avons adressées à Dieu en doutant ou en disant « Seigneur, je ne sais pas trop bien si tu peux faire quelque chose pour moi ». C'est peut-être pas comme ça que vous le dites, mais notre attitude est comme ça. Et Jésus doit interpeller le Père, si tu peux. Et le Père interpellé. Et aujourd'hui, comme lui, nous devons être interpellés sur nos doutes. Il nous regarde et nous dit, si tu peux, où est notre foi? Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, nous devons réaliser que tout est possible. Mais tout. On ne peut pas dire tout sauf ça. C'est peut-être comme ça que nous avons notre pensée et nous restons des hommes. Hein. Ah, Dieu peut agir là, mais là, c'est un peu compliqué. Hein. Non, Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Croyons-nous, frères et sœurs, quand nous demandons que tout est possible? Avons-nous conscience que nous nous adressons au Dieu de l'impossible? Ah oui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et cet homme reconnaît son manque de foi. Et il demande le secours de Dieu. Il avait la foi, mais pas assez développée. C'est ce qui nous caractérise aussi. Reconnaissons notre faiblesse. Demandons l'aide du Seigneur. Ne restons pas dans cet état. Et c'est souvent la cause de ne pas voir Dieu agissant dans nos prières. Le manque de foi ou la petitesse de notre foi, ça nous devons le reconnaître. Nous devons demander pardon à Dieu de nos doutes et demander à Dieu, comme ce Père, augmente ma foi, parce qu'elle est faible. Et comme lui disons, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Alors nous avons besoin de l'aide de Dieu pour qu'il augmente cette foi. Ayons ce courage spirituel de reconnaître nos faiblesses et notre manque de foi. Nous avons parfois honte hein, de nos faiblesses, mais le Seigneur sait que nous sommes faibles. Il sait que nous ne sommes que des humains, et avec nos faiblesses, nos points forts, mais aussi avec nos points faibles. Et ce fut à ce moment-là l'élément déclencheur pour l'accomplissement du miracle envers cet enfant. Jésus attendait que le Père prononce ses paroles avant d'agir. Bien sûr qu'il aurait pu le faire avant, hein. Mais Jésus voulait susciter en lui ce désir d'augmenter sa foi. Tout cela se termine et il est temps de mettre les choses au point. Seigneur, pourquoi avons-nous été incapables d'intervenir? Tout est bien qui finit bien pour l'enfant et le père, mais les disciples sont tracassés, ceux qui sont restés là. Seigneur, tu as promis que nous ferons des œuvres plus grandes que tu n'as faites. C'est Jésus qui nous le promet, hein, que nous ferons encore des choses plus grandes que lui. Et pourquoi n'avons-nous pas pu faire cela? Pourquoi, Seigneur? Ça, c'est nous qui devons nous poser la question. Pourquoi, Seigneur? Ça ne marche pas. On donne beaucoup d'explications. On dit maintenant, certains pasteurs disent, oui, maintenant la science a fait tellement de progrès. Il n'y a plus besoin que le Seigneur intervienne. Hein. Nous avons, dans la région de Liège, plusieurs hôpitaux réputés. Je bénis le Seigneur pour ces médecins, pour ces hôpitaux qui sont là, à notre disposition. Pour l'intelligence qu'il a donnée à tous ces médecins, à toutes ces infirmières. L'intelligence qu'on a pu trouver des nouvelles machines, qu'on a fait de la recherche et que tout cela a permis une grande avancée dans la médecine et notre confort personnel est là. Mais il y a encore pas mal de maladies qui sont encore incurables. Et parfois nous sommes là. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ne réponds-tu pas? Oh, vous savez, on pourrait donner tant de réponses à ces questions. On dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de Dieu, je ne peux pas donner une réponse. Il y a des raisons pour lesquelles des guérisons n'ont pas eu lieu d'une façon miraculeuse. Mais il y a aussi parfois certaines guérisons, certaines réponses dans des situations difficiles qui nous sont imputées par notre façon de vivre notre vie chrétienne. Jésus a la réponse pour ses disciples, le manque de prière. Oh, je pense que ses disciples l'ont prié, mais certainement pas. Autant que le Seigneur désirez qu'il prie. Nous revenons toujours à ce même thème dont on en a parlé en 2024, la prière. Il n'y a pas de secret. Pour une vie de victoire, il n'y a pas de secret pour le chrétien. C'est la prière. Et c'est très, très dur de prier. Parce que c'est un combat que nous devons mener. C'est un combat que nous devons mener seul, bien souvent. C'est plus facile de prier quand on est ensemble, mais qu'on est tout seul chez soi, qu'on doit prier. Tout le monde n'est pas comme Daniel, le prophète, qui avait pris cette habitude de prier 3 fois par jour, d'avoir une vie de prière intense. Nous ne savons pas faire cela, parce que parfois nous avons des occupations et des choses que nous devons faire, mais notre vie de prière, comment est-elle? Et Jésus leur fait comprendre que leur vie de prière est médiocre. Alors, je me pose la question et je me mets dans l'eau. Comment vivons-nous notre vie de prière? Comment se porte notre vie de prière? Et analysons les échecs, nos échecs. S'ils sont imputables à notre manque de foi, s'ils sont imputables à notre manque de persévérance dans la prière, parce que bien souvent nous nous décourageons. Et je me souviens d'avoir prié pour certains sujets dont je remercie Dieu qu'il nous a répondu. Et on le disait avec mon épouse des fois, est-ce que ça vaut encore la peine de prier pour ça? Heureusement qu'on a continué à prier, parce que nous avons reçu des réponses. Un cas que nous venons de vivre actuellement, on a eu un certain problème en famille, comme dans toutes les familles, et nous nous sommes éloignés. Et pourtant, on a prié. On a prié pour que le Seigneur réponde. Et le Seigneur a répondu. On a revu des membres de notre famille. Il y avait, depuis l'enterrement de ma belle-mère, que nous n'avions plus vu, donc ça fait 12 ans que nous ne nous voyons plus. On s'est perdu de vue, on ne s'est plus parlé, pour différentes raisons. Et Dieu est intervenu. Et tout le monde a dit « on est heureux de se revoir ». Il y a des cas comme ça. On pourrait en citer d'autres, de voir. Et parfois, on se dit « est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» Mais oui, ça vaut la peine. Parce que Dieu veut voir notre foi, voir notre persévérance dans la prière, voir comment nous agissons. Et il y a un plan de Dieu et un temps de Dieu. Alors remettons-nous en question. Si nous manquons de victoire, eh bien, nous sommes toujours dans le mois des résolutions, nous sommes au mois de janvier, et c'est toujours le mois des bonnes résolutions, dit-on. Passons la nourriture, parce que là, ça a tenu quelques jours, et puis c'est tout. Mais au niveau spirituel, nous pouvons prendre cette résolution. Seigneur, cette année-ci, je désire. Nous désirons, la communauté de Bléni désire des victoires. Alors, Seigneur, aide-nous, augmente notre foi, mais aide-nous à avoir une meilleure vie de prière. Et je suis convaincu que chacun de nous pourrons témoigner dans le courant de l'année de dire « Le Seigneur a répondu dans tel ou tel sujet, parce que nous avons été persévérants dans la prière ». En conclusion, réalisons que notre Dieu veut nous faire monter sur la montagne, là où on rencontre Dieu, voulant nous faire voir sa gloire. Son but n'est pas simplement de nous faire passer un bon moment agréable en sa présence, mais il veut nous qualifier, il veut nous fortifier, afin que quand nous allons redescendre dans la vallée, nous ayons toutes les armes et toute la force pour pouvoir combattre, que nous ayons de nouvelles forces, que nous puissions vaincre les difficultés qui se présenteront à nous. Il n'y a rien à faire, une fois qu'on est dans la vallée, les difficultés seront là, il n'y a pas photo. Tant que nous ne serons pas dans la gloire, nous serons face à des difficultés. Et en plus, croyons en la puissance de Dieu. Ne doutons pas, redynamisons notre foi en le demandant à Dieu. N'acceptons pas notre état de faiblesse spirituelle en disant « Ah mais c'est normal, on est des hommes, on est faible, on chute tout le temps ». On devrait peut-être dire « Seigneur, je sais que je chuterai encore, mais n'acceptons pas la défaite. N'acceptons pas cet état de faiblesse comme quelque chose de naturel. Persévérons dans la prière afin d'accomplir des exploits, comme le Seigneur nous encourage à le faire. Rien n'est irréalisable si nous mettons notre confiance en Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Alors, que ce soit notre désir cette année, une année de victoire, une année où notre foi s'affermit, où notre vie de prière se transforme, et que nous puissions vraiment bénir le Seigneur de voir la croissance de cette communauté. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, pardon pour ces manquements que nous avons. Pardon parfois que nous ne croyons pas, pour notre foi qui est si petite, si faible, Seigneur. Ô notre Dieu, pour les fois où nous disons « si tu peux », alors que toi tu peux tout, fortifie notre foi, fortifie notre courage. Aide-nous à lutter dans la prière. Seigneur, nous voulons que cette Église puisse croître, que chacun d'entre nous ayons des forces nouvelles. Amen.